Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Et ce soir, on m'a demandé de vous raconter tout d'abord comment je suis devenu chrétien avant de partager avec vous une petite prédication et on va utiliser, si on peut, aussi le vidéoprojecteur ici, donc il est tout prêt, donc vous ne verrez pas des gros dessins, mais on va quand même faire. Moi j'ai l'habitude de demander dans notre église, quand je prêche à un dessinateur, de faire notre plantu, c'est-à-dire il nous fait des petits dessins humoristiques pendant que je prêche, et ça aide aussi à maintenir l'attention. Donc on va faire ça tout à l'heure aussi, pour que vous puissiez maintenir l'attention, et ma prière c'est si jamais vous endormez, Seigneur donne-leur le même message en songe. Donc, je vais commencer par un texte qui est assez connu, qui relate la conversion d'un homme qu'on appelle l'apôtre Paul aujourd'hui. Il y a des points en commun dans sa démarche de conversion et dans la mienne, mais la comparaison s'arrête là, vous pouvez en être sûr. Mais n'empêche, je prends appui sur ce texte-là, il se trouve dans Acte 26, versets 9 à 20. « Pour moi donc, j'ai pensé que je devais d'abord m'opposer par tous les moyens au nom de Jésus de Nazareth. » C'est ce que j'ai fait. J'ai jeté en prison, je me suis opposé aux chrétiens. J'ai essayé de les contraindre à renier leur foi. Dans l'excès de ma fureur, j'allais les traquer jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi qu'un jour, muni des pleins pouvoirs que m'avaient donné les chefs religieux, je me suis rendu à Damas. J'étais en chemin, c'était environ midi. Alors, venant du ciel, une lumière plus éclatante que le soleil m'a enveloppé de son éclat ainsi que mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre et j'entendis une voix qui me disait en araméen « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre l'aiguillon. Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre l'aiguillon. Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi, tiens-toi debout. » Car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vu, et leur dire ce que je te ferai voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu du peuple et des païens vers lesquels je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant à moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, roi, je n'ai pas résisté à cette vision céleste. Mais je me suis adressé aux habitants de Damas, puis à Jérusalem, puis à toute la Judée, et enfin aux nations, et je leur ai annoncé qu'ils devaient changer, se convertir à Dieu, et pratiquer des œuvres dignes de leur repentance. Amen. C'est l'histoire d'un homme ici, donc Paul, qui a été arrêté par une rencontre de la lumière de Dieu. C'est un peu le thème de cette conférence. Ils étaient aveuglés dans leur intelligence. Et puis, leur intelligence a reçu la lumière, ils ont commencé à voir tout différemment, et ils étaient en feu pour devenir témoins de Jésus. Et ce sera mon témoignage ce soir, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous dans ces quelques jours où je vais m'adresser à vous. Ma prière au Seigneur, c'est qu'au-delà de mes mots, il y a un transfert de ce que Dieu a fait dans ma vie, dans vos vies, que le même feu nous anime tous, que le même esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts soit à l'œuvre dans nos corps mortels pour nous ramener à la vie. Parce que Jésus est venu pour nous donner la vie et une vie en abondance. Quand cette vie nous anime, c'est allumé à tous les étages. La lumière s'allume au-dedans de nous et il y a un moteur qui se met en route au-dedans de nous. Et j'aimerais voir ce moteur-là dans nos vies. Parce que Dieu est un Dieu qui a un feu dévorant et celui qui fait de ses serviteurs des flammes de feu, nous dit la Bible. Et j'aimerais vraiment que nous puissions repartir comme des flammes de feu de cette convention afin qu'on puisse faire comme Paul l'a fait ici. Je vois deux parties dans son témoignage, une partie où il était contre Dieu et puis une partie où il s'est mis allié de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie et je le traduis par quelque chose qui est ma devise aujourd'hui. Jésus est mort pour donner un grand prix à une vie sans valeur, ma vie. Je vais vivre une vie de valeur pour donner un grand prix à la mort de Jésus pour moi. Donc s'il y a deux volets ici, Jésus est mort pour donner un grand prix à une vie sans valeur. C'était ma vie. Mais je vais vivre une vie de valeur. Je veux honorer le Seigneur dans ma vie pour donner un grand prix à la mort de Jésus pour moi. Il y a donc deux côtés. Peut-être que mon langage va choquer certains. Alors, je vais vous offrir, je vais vous faire un tout petit cadeau qui m'arrive de faire quand je suis pas dans mon milieu et je suis bien souvent pas dans mon milieu. Je voudrais vous offrir un petit sac de pardon. Alors, je voudrais vous demander, recevez bien, je voudrais vous demander pardon. Tu vois, je te regarde vraiment dans les yeux. C'est juste toi que je regarde maintenant. Toi, et je te dis de tout mon cœur, pardon. Pardon si je t'offense. Mon cœur n'est pas là pour t'offenser. Alors, ouvre bien ton petit sac, et puis je t'en mets un petit stock. Pardon, pardon, pardon. Pardon, 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 pardon. Pardon, pardon, pardon. Maintenant, à chaque fois que tu trouves, tu dis, oh là, c'est pas juste, là, ce qu'il dit, c'est pas bon. Tu prends ton petit sac, tu sors un pardon, tu dis, Seigneur, ça va, je lui pardonne. Si jamais t'es en rupture de stock, lève la main bien haut, et je te promets, sincèrement, je te renouvelle le stock en te demandant pardon. Parce que mon cœur est vraiment pour vous bénir. Et vraiment, la chose que j'ai demandé au Seigneur, principalement, c'est de pouvoir vous aimer. C'est pas que ce soit difficile, pas ça. Mais vous savez, je suis toujours en mission. Je sors d'une mission en Suisse, je repars bientôt au Congo, j'ai une conférence avec 500 pasteurs. Et quand je viens toujours devant des gens que je ne connais pas, je ne viens pas pour faire une performance, je viens pas pour étaler ma connaissance ou mon ignorance, ou pour essayer de m'exprimer moi-même sur une estrade, je viens en train de dire, Seigneur, ce que tu as fait dans ma vie, transmets-le. Et je sais que la foi est toujours communiquée dans l'amour. C'est pourquoi j'ai crié à mon Dieu, Père, que vraiment cet amour, ce feu, soit communiqué afin que chacun puisse recevoir. C'est pourquoi je veux que réellement nous soyons ensemble du même côté. Je n'ai pas toujours été chrétien. Et c'est pour ça que je vais vous dire, pour certains ça fait un peu bizarre, mais finalement le choix de Jésus, le choix du Seigneur est souvent bizarre. Pensez aux 12 gars. La bande, le gang à Jésus, les 12. C'est quand même des pauvres types. Vous avez 4 poissonniers qui n'ont jamais réussi à attraper un poisson sans que Jésus fasse un miracle. Non mais c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'évangile. Si quelqu'un ici me montre un passage où les disciples arrivent à attraper même un poisson sans que Jésus fasse un miracle, je mange ma Bible. Si vous me montrez deux, je mange la vôtre avec. Hein? Non, réellement, il y a 4 poissonniers qui n'ont jamais réussi à attraper un poisson. Donc ça, 4 poissonniers au bord de la faillite. Comment Jésus les reconnaît après la résurrection? Ils sont sur le lac. Nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien attrapé. Jésus dit, ça peut être que. Non, mais c'est vrai. Donc, si vous voulez, il avait les 4 poissonniers au bord de la faillite. Il avait à côté Philippe, l'idéaliste. Philippe, c'était vraiment le grand rêveur, c'était le grand théoricien. À la fin du ministère de Jésus, 3 ans et demi avec Jésus, il en a vu des choses, des miracles, la résurrection de Lazare, la multiplication des pains. Et Jésus, il dit, Philippe dit à Jésus, montre-nous le Père. Et là, c'est bon, on aura notre compte, ça nous suffit. Ouais, ça, c'est un idéaliste. Puis à côté, vous avez Thomas, le maniaco-dépressif. Thomas, il était terrible, vous savez, il touche une batterie et se décharge. Il rentre dans une noce, tout le monde croit que c'est un enterrement. Il parle 2 fois dans la Bible, une fois pour dire « je crois pas tant que j'ai pas mis mon doigt dans le trou » et une autre fois pour dire « bah allons mourir avec lui hein. ». Donc ça, et après, vous avez Matthieu, le collabo. Matthieu, c'est vraiment le type qui faisait toujours la fête avec les copains. Et puis un jour, Jésus dit « toi, suis-moi ». Tu sais qui tu prends là? Tu sais, moi, vraiment, dans le village, tout le monde sait, je connais tous les gros mots, toutes les chansons paillardes, c'est moi qui les anime, je suis le grand animateur des fêtes, et il n'y a pas une personne dans la ville que j'ai arnaqué. Et toi, Jésus, tu me dis, suis-moi. Jésus dit, oui, je te prends, ça va faire venir du monde avec toi. Et donc, Jésus prend Matthieu, le collabo, et juste à côté, il trouve Simon, le terroriste. Donc, Matthieu, il collaborait avec les Romains. Matthieu, en d'autres temps, il aurait été un officier de Vichy. Et de l'autre côté, vous avez le chef de la résistance, Simon le Zélote, le terroriste, qui cassait du Romain continuellement. Et Jésus dit, ça fera une belle équipe de ministère. Tout le monde. Ah oui, ça fait du jus, ça fait du jus. Mais imaginez la bande à Jésus. 12, après, on est à 9. Hein, il vous en reste 3. C'est les 3 effacés dont on parle jamais. On n'a jamais dit un mot sur eux. Ils sont effacés. Ils ont fini par devenir apôtres parce que le Saint-Esprit leur a tombé dessus. puissamment et vraiment puissamment. Donc quand vous voyez le tableau, vous dites, vraiment Jésus, et c'est avec ça que tu vas bouleverser le monde. Seigneur, faut vraiment être Dieu pour avoir une image comme ça. Parce que là j'en ai 11, le dernier c'est Judas le voleur, pas à peine qu'on s'étende sur lui. Hein. Mais vous avez là l'espoir du monde. Les 12 gars, 4 qui puent le poisson, juste parce que Jésus a fait des miracles, sinon jamais ils auraient pu sentir cette odeur extraordinaire pour eux, l'odeur dont ils rêvent tout le temps. Vous avez vraiment une bonne bande de 12 graciés qui font toujours les bêtises. Je dis bien bêtises. Parce qu'il faut m'excuser, de temps en temps, j'ai des mots qui vont à l'envers parce que je voyage dans plein de pays. Il y a quelques temps, j'étais en Côte d'Ivoire, à Yopougon. Il y a une jeune dame de Yopougon ici. Oui. J'étais donc dans ta ville à Yopougon. Et moi, à un moment donné, je dis, là, c'est pasteurs qui ont fait des bêtises. Ah, j'ai le président de Réunion qui se lève, il me prend le micro, il dit au pasteur, excusez-le, hein, il vient de France. Il voulait dire connerie. Ah, je savais pas que connerie, c'était plus poli que bêtise. J'ai dit, chez les Blancs, c'est l'inverse. Donc, de temps en temps, je fais attention quand même. Jésus vient nous chercher et choisit des personnes vraiment totalement par grâce. Quand Jésus passait dans la rue, il regardait avec ses deux yeux. Un côté, il avait le Sanhédrin, 120 glaciers, tous de blanc vêtus, barbe blanche, etc. Froid comme la glace. Ça faisait l'impression d'un glacier. 120 glaciers et 12 graciers. 12 graciers. Et il a misé sur les 12 ici. C'est pour ça que je dis, Seigneur, mais vraiment, tu sais, t'es vraiment grand. T'as un sens de l'humour très particulier. Des fois, des gens me disent, je comprends pas que Dieu t'ait choisi. Je dis, mais parce que tu connais pas son sens de l'humour. Si tu connais le sens de l'humour du Seigneur, tu te poses pas de questions pourquoi il a appelé quelqu'un comme moi. Et je vais même aller plus loin. Si vraiment tu connais son sens de l'humour, peut-être tu vas te sentir appelé aussi. Donc, je suis né une première fois, et après une deuxième fois, mais d'abord je suis né une première fois, il y a assez longtemps maintenant, mais je ne vous dirai pas quand. Et au début de ma vie, mes parents étaient presque croyants. Ils croyaient, ils doutaient aussi beaucoup, mais de temps en temps ils croyaient. Alors maman était à la fois croyante catholique et en même temps guérisseuse. On est issus des milieux d'Amérique, des milieux latins, pas Amérique latine, non, des milieux latins, d'origine espagnole, etc., dans ma famille, du côté maternel. Mon papa était aussi catholique, maman était expérimentée des choses de la puissance, elle faisait des guérisons, c'était pratique, mais c'était étonnant. Papa, lui, était catholique, mais élevé dans une morale très rigide, un homme droit, mais tellement rigide que de temps en temps, le dimanche matin, il m'amenait à la messe. Et dès qu'il rentrait dans l'église, il devenait une statue de granit. De 10h à 11h, tous les dimanches matins, papa mourait, une statue de granit. Et quand on quittait, là, on allait dans l'endroit où papa devenait adorateur, c'est-à-dire le stade de foot. Alors là, j'ai compris ce que c'était être un adorateur en esprit, pas en vérité, mais en esprit. Là, je le voyais dans l'église. Et je le voyais sur le stade. Ouais! Pas fou le gamin. Il savait où est-ce qu'on s'éclate. Il a dit, j'ai compris. Là-bas, on s'ennuie. Là-bas, on s'éclate. Regarde papa. Il devient mort là-bas. Ici, il est vivant. Il vibre pour quelque chose. Donc j'ai dit, je vais essayer de me tourner vers ça. Mais quand même, j'ai eu encore d'autres choses qui m'ont rebuté. Quand j'avais 5 ans, le chien de mon oncle est mort. Des choses qui arrivent. Je dis, maman, où est-ce qu'il est maintenant qu'il est mort? Il me dit, tu sais, on dit qu'il se pourrait que... Enfin, il y en a qui croient que... Oh là là, la façon dont maman... Parce que vous savez, tout le monde sait ici qu'une maman sait tout, n'est-ce pas? Une maman sait... Ma maman, elle sait tout. C'est la vôtre, elle ne sait pas. La mienne, elle sait tout. Mais ce jour-là, maman, il y a un truc qu'elle ne savait pas. La façon dont elle m'a dit, on dirait que, etc. J'avais 5 ans, je me suis dit, maman ne sait pas, tu as intérêt à faire attention. Il doit y avoir une embrouille là derrière. 6 mois plus tard, vraiment, j'ai découvert qu'on m'avait arnaqué toute ma vie. J'avais 5 ans et demi. Mais pendant toute ma vie de 5 ans et demi, on m'a menti. C'était le soir de Noël. 5h du matin, on était tous ensemble dans la famille, chez ma grand-mère, tous les cousins, etc., comme on fait dans les familles du monde latin. Et puis, je dis à mon oncle, Où sont papa et maman? On dit, ben, ils sont à la maison. Parce que tu sais, le Père Noël, c'est eux. Je dis, non, c'est pas vrai. Mais vous savez, ils m'ont trahi. Ils m'ont fait croire un truc pas vrai. Et j'ai dit, non, c'est pas vrai. Ils me disent, si, si. Ah, j'ai dit, oh là, ils sont lâches. Mais alors, si le haut du sapin, là, c'est faux, le bas, la crèche avec leur petit Jésus, dans 5 ans, ils vont faire le coup de me dire, tu sais, le bas du sapin, c'était pareil, hein, c'est juste pour te garder sage. Alors j'ai dit, oh les vaches, alors maintenant, j'ai commencé à réellement prendre du recul sur ce que les adultes pouvaient me dire et avoir une croyance qui reculait réellement là-dessus. Alors ensuite, j'ai cherché pas mal de choses dans la vie, j'avais envie de trouver vraiment, pour moi la vie c'était un moment où on allait s'éclater. Il y a un dicton qui dit « Une vie inutile est une mort anticipée ». Et je connaissais pas ce proverbe quand j'étais enfant, mais c'est ce que je ressentais au-dedans de moi. Une vie qui pétille pas, c'est une mort anticipée. Alors j'avais envie que ça pétille. Donc, je me suis éclaté dans le football avec des copains, etc. Puis arrivé à l'âge où on commence à se poser des questions, à 15 ans, comme beaucoup en ce temps-là, j'ai fréquenté les milieux musicaux et culturels avec... c'était bien après Woodstock, mais je commençais à m'intéresser à toute cette musique-là et puis à lire Dewitt, qui était un livre de remise en question de toutes les valeurs judéo-chrétiennes, Le Capital de Karl Marx, et puis je commençais à militer dans les partis d'extrême-gauche, etc. Il y avait vraiment un souffle de révolution qui nous animait. Et puis, de plus en plus, quelque chose d'anticlérical au-dedans de moi. Après tout, c'est vrai que la religion, c'était l'opium du peuple pour une espèce attardée. La preuve, tu les regardes, ils ont l'air comme des momies à moitié vivantes et ils continuent de chanter leur Amen et leur Alléluia parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que le temps passe, la terre bouge et eux, ils sont enfermés dans leur petite bulle. Bon, mais enfin, il y a des asiles, il y a des églises, il faut tout pour faire un monde. Mais en tout cas, c'est pas là que je vais m'éclater et je le sais depuis que je suis tout petit. Donc, je me suis... reculé ici, puis je me suis peu à peu tellement impliqué dans la politique jusqu'à ce qu'un jour, je finisse par être écœuré de nos manipulations, nous qui avions des idéaux, des utopies, puis en fait, on manipulait les foules, on changeait les chiffres auprès des journalistes pour essayer de faire croire qu'on avait plus de grévistes, etc. Et je me suis rendu compte, finalement, il y a quelque chose qui tourne pas au-dedans de moi. Alors, j'ai gardé un certain équilibre parce que mes parents étaient remplis d'amour et remplis de stabilité eux-mêmes. Et puis, je réussissais assez bien à l'école, je continuais le football. Toutes ces choses-là m'ont empêché de m'écrouler totalement. Mais un jour, je me suis dit, mais finalement, Philippe, ce serait quoi le bonheur? J'allais approcher 16 ans. Puis je me suis dit, je vais essayer de dessiner mon paradis dans mon contexte. J'aimerais vivre avec une jolie blonde aux yeux bleus. J'aimerais pouvoir quitter chez papa et maman, ça c'est le moment que on pense tous à ça, enfin beaucoup en tout cas. Et donc je veux quitter chez papa et maman, trouver une jolie blonde aux yeux bleus. Elle travaillerait, moi je continuerais mes études. On pourrait fumer toutes sortes de choses, je jouerais de la musique avec mes copains, puis on irait dans les cercles philosophiques, etc. Puis voilà, j'ai essayé de dire c'est ça. Le jour où j'ai ça, c'est bon. 6 mois plus tard, je me retrouve exactement dans cette situation. Est en train de me dire, voilà, j'étais avec une jeune fille, j'avais quitté mes parents, je fumais, elle travaillait, je continuais mes études et tout. Mais là, au lieu d'être dans le bonheur, j'étais réellement dans une désillusion, en train de me creuser une vallée de désespoir, de mélancolie et de violence, le cynisme. Je perdais totalement le goût de la vie. Et à 17 ans, j'étais sur les ponts de ma ville, de Montauban, en ce temps-là, et je regardais cette rivière qui passe dessous le Tarn et je me disais, mais... voilà, tu as essayé de dessiner tout ce que tu pouvais désirer de la vie et tu ne sais plus quoi désirer. À quoi ça te sert de vivre? Et je commençais à mépriser les autres, etc. Puis quelqu'un, un philosophe, m'a proposé d'appartenir à un cercle des philosophes, des intellectuels de ma ville. J'y suis allé, j'étais le tout petit jeune de 17 ans qui était accueilli là. Et puis, j'ai essayé de réfléchir avec eux. J'étais parti dans les trucs de Nietzsche et puis la philo et faire les concours nationaux de philosophie et tout ça. Puis j'étais au milieu de tout ça, quand un jour j'attendais ma copine à un arrêt d'autobus, elle est rentrée du boulot. Puis il y a un type là, vous savez les petits bruns avec les yeux perçants qui viennent vous voir, vous casser les pieds avec leur religion, leur secte. J'en avais déjà viré quelques-uns, mais là j'étais à l'arrêt d'autobus, il s'approche de moi, il me dit, tu veux connaître la vérité? Je lui dis, celui-là il vient quand même parler de religion. Je regarde bien dans les yeux, je lui dis, non! J'espérais que ça allait le décourager, mais c'était un coquillage, celui-ci. Quand il vous prend, il ne lâche plus. Alors, commence à dire, tu sais, moi j'ai fait le tour du monde pour trouver Dieu, je suis allé dans le désert en Israël, je suis allé... Pauvre type, vraiment, si jamais il y avait un Dieu, je ferais le tour du monde pour fuir loin de lui. Puis il me racontait toutes ses histoires, puis je suis allé là-bas, puis il m'a même parlé de Gagnère, mais je ne savais pas ce que c'était. Gagnère, vous savez, moi, là-bas, je n'avais jamais entendu ce nom-là, puis c'est... Même si c'est très important pour vous, c'est quand même pas une capitale régionale sur le plan géographique. Donc, on n'est pas censé savoir ce que c'est dans le monde normal. Donc, je disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce type? Mais vraiment. Et enfin, il est parti. Et quand il est parti, je commence à rire. C'était en 1976. Et je commence à rire. Puis je disais, oh Jésus, c'était vrai. Puis je m'arrête, je dis... C'est pas bon, ça. Ça doit être un relent de ton dernier LSD. J'en ai pris qu'un, hein. Mais c'était quelques mois avant, j'ai ri pendant 4 heures. Je me suis dit, ça doit être même histoire qui t'arrive. Tu ris. Mais en plus, là, sur la place publique, j'avais tous les copains dans les cafés. Bon, je suis rentré chez moi, puis je me suis dit, quand même, ce gars, si ça... Vous savez, j'étais un peu en dépression. J'étais triste, mais ça servait à rien, la vie. Je me suis dit, si l'effet que ça me fait quand il me parle de son Dieu, c'est au moins quand il part, ça me fait rigoler. Je vais essayer qu'il me parle 5 minutes, puis c'est bon, je le revois dans un café, on va dans le café, puis il me dit, tu sais, on va prier, Dieu va se révéler à toi. Je dis, attends, là, il faut que je t'explique un truc. Moi, tu vois, on dit que je suis un intello, et que tous les trucs spirituels avec moi, ça marche jamais. Je ne voudrais pas te décourager, mais tous mes potes disent, chaque fois qu'ils font une séance de spiritisme, ils disent, esprit, viens. Et rien ne se passe, et ils disent, quelqu'un fait parasite dans la pièce, et tous les yeux se tournent vers moi. Donc, tu vois, à ce qui paraît, moi, je suis un blocage sur le plan spirituel. Ça va pas marcher, ton histoire. Je vais pas te décourager. Mais tu vois, je suis un mauvais candidat. Donc, ils me disent, c'est pas grave, ça dépend pas de toi, ça dépend de Dieu qui veut se révéler. Je dis, bon, c'est bon, t'as une belle théorie, on y va. Puis alors, je commence. Il s'appelait Yvan, le gars. Et il me dit, tu dis, Dieu vivant, si t'es vivant. Je dis, c'est joli ta prière. Dieu vivant, si t'es vivant, révèle-toi à moi. Je commence à dire son truc. Et puis, au moment où je dis ça, il m'arrive un truc bizarre. Il y a une épée flamboyante qui m'apparaît devant les yeux, qui s'approche de moi comme ça. Et je lui dis, non, c'est bon, on arrête. Intérieurement, je dis, c'est dangereux son truc, mais... Mais je dis, non, ça va, on arrête. Par contre, je lui dis, je voudrais bien venir voir chez vous comment vous faites, parce que il m'a dit, tu sais, nous, on vit ensemble, on met tout en commun. Il y en a qui bossent à l'extérieur chez des patrons, il y en a qui travaillent sur la ferme, il y en a qui sont étudiants, etc. On met tout en commun, on redistribue selon les besoins de chacun. Je dis, ah bon? Vous pratiquez Bakounine chez les chrétiens? Et il me dit, non, c'est pas Bakounine. Bakounine, c'est le fondateur de l'anarchisme qui a dit, on redistribue selon les besoins. Ah, je lui dis, ah, je savais pas que la Bible parlait de Bakounine. Il me dit, non, la Bible parle pas de Bakounine. C'est Bakounine qui a trouvé ça dans les actes des apôtres. Je lui dis, c'est pas possible. Alors, je savais pas qu'il y avait un truc comme ça. Mais je lui dis, moi, j'aimerais venir voir si vous arrivez à le vivre. Parce que moi, avec mes copains, on essayait de le vivre, mais chaque fois qu'il y en a un qui pouvait piquer 100 balles à l'autre, il le faisait. Alors, je dis, je veux voir, vous, qu'est-ce que vous vivez. J'arrive là-bas, vraiment, des gens super. Hein. J'étais très impressionné par les discussions. Plus c'était intéressant la discussion, plus il fallait que je fume. Vous savez, j'ai besoin de carburer. Alors, je savais pas qu'ils fumaient pas. J'ai enfumé la maison pendant une matinée entière. Ils ont été gentils d'accepter tout ça. Malheureusement pour moi, mais... Enfin, pour eux, c'était... Ou pour moi, c'était heureusement. Et malheureusement pour eux, j'ai tout enfumé. Puis, à la fin... Alors, je commence à essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font, parce qu'ils me disent que ils avaient une fille qui n'était pas chrétienne, et ils appelaient ça la fille du berger, parce que le gars là, il l'appelait le berger. Donc moi je dis, vous avez des moutons? Ils disent, non, c'est nous les brebis. Je dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont graves ces gens. Bon, je sais qu'il faut être un peu fêlé pour être chrétien, mais alors, au point que ces pauvres types se prennent pour des moutons. Mais alors là, vraiment, c'est... Alors, non, ils me disent, non, on a des canards, des lapins, mais les bergers, c'est parce que nous, Jésus dit que nous sommes les brebis. Oh là là, le trip dans lequel ils sont partis. Dire que ça existe, une espèce attardée comme ça, en fin de 20e siècle, puisque c'était en fin de 20e siècle, je me disais, ils ont pu durer jusqu'à présent, les gens comme ça. Mais finalement, ils sont gentils, bon, mais ça va. Bon, j'ai passé le repas en train de me dire, bon, ils sont graves, mais j'en ai vu d'autres, parce que moi aussi j'avais des copains, vous savez, qui étaient un peu... À force de prendre des LSD, j'avais aussi des fêlés. Bon, ben eux, c'était pas des LSD, c'était des doses de religion, mais c'était aussi fêlés. Ils se prenaient pour des moutons. Mais gentil, gentil, vraiment gentil. Mais l'après-midi, à un moment, ils se sont mis autour de la table, ils ont commencé à faire un truc bizarre. Ils ont commencé à prier. Ils ont dit, on va prier et chanter. Alors, ils ont commencé à prier. Et il y avait deux, trois qui parlaient toujours du chat. Ils disaient, chat, 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 chat. Il y a un problème avec le chat chez eux. Apparemment, il y a un truc. Et puis, ils ont commencé un chant. Un truc, mais bête, j'ai cru que ça allait me faire, c'est la chenille qui redémarre. C'était un truc qui était... Va des mains, peuple chrétien, car Dieu est roi de la terre. Et puis taper des mains en fin de 20e siècle, je t'assure. Et attends, là, c'est pas fini. Après, ils faisaient des gestes. Hosanna. Oh, je disais, oh là, là vraiment. Pas étonnant qu'ils appellent l'autre berger qui s'appelle Mouton. Ces gens-là, c'est fini. Je peux pas rester avec des gens. Pas... C'est ça les gens crédibles qui voudraient changer ma vie. Quand j'ai dit, ça va, c'est terminé. Juste avant de partir, j'ai dit au berger. Qui n'était pas, vous avez compris, c'était pas un berger parce que les gens se prenaient pour des moutons. Donc c'était un homme qui gardait, qui conduisait des autres hommes, des humains. Donc j'ai dit à ce gars-là qui se prenait pour un berger, ta fille, je trouverais dégueulasse que par la dynamique de groupe et la manipulation mentale, vous la meniez à votre foi. Ça c'est vraiment un argument français. Donc... Il m'a dit, non, non, nous on respecte la démarche de chacun, tu sais, ça regarde chacun ce qu'il veut faire avec Dieu, etc. Je suis parti, j'ai dit, bon, j'ai essayé. Dieu, je te donne ma vie. Oh, j'ai pris un mal de tête terrible. Dieu, je te donne plus ma vie. J'étais guéri. J'ai dit, c'est fini. Jamais plus je vais entendre parler de ces gens. Vous savez, j'avais fait des trucs, et puis ma maman aussi, donc j'avais besoin de libération, mais je savais pas, mais j'avais à la fois envie de m'approcher, mais là, quand j'ai plus mal de tête, j'ai dit, je veux plus jamais entendre parler de ces gens. Ils sont trop fous, pire que mes copains. Puis, c'est fini. Puis je vais au café, la vie normale reprend, je vais faire un baby avec mes copains quelques mois plus tard, et la fille du berger, toujours du gars, tu sais, mouton là, qui rentre, elle me dit, je suis devenue chrétienne. Et moi, je me suis mis à parler hébreu d'un coup, j'ai dit, oh les salauds, ils l'ont eu. Excusez-moi, si vous avez besoin d'un sac de pardon, ouvrez-le, hein, mais je vous parle comme je parlais à ce moment-là, d'accord? C'est pas, si quelqu'un va trouver François peut dire, il a dit salaud, est-ce que ce mot est dans la Bible? Non. Mais je parle d'une période où moi-même j'étais jamais dans la Bible, d'accord? J'avais jamais vu une Bible encore en ce temps-là. Et puis, donc là j'ai dit, il faut que je l'aide à sortir de là, la pauvre. Donc je lui dis, viens à la maison. J'ai sorti tous mes livres de philosophie, elle a mis de son côté sa petite Bible. C'était petit. Chaque feuille était comme le papier. Avec lequel je roulais mes cigarettes, j'ai touché ça. Mais c'est fantastique, je vais à un stock avec ces trucs-là. Par contre, j'avais, en face d'elle, j'avais sorti tous mes livres, puis je me suis dit, ça va être plié en un quart d'heure. Et puis, je commence mon argumentation, à déconstruire ce qu'elle faisait, etc. Et puis, jusqu'à ce jour, on n'est pas d'accord. Mais moi, je pense qu'elle ne savait pas toujours quoi répondre sur le plan de l'argumentation. Par contre, elle répondait avec des convictions et des certitudes que je n'avais pas. J'amenais mes arguments bien construits à l'école de philosophie française et elle amenait des convictions, la foi, qui perçait mes ballons de gonfler devant. Et ça m'énervait parce qu'on s'est vu comme ça longtemps. En fait, ma recherche a duré 5 mois. Avant, ça, un jour, j'avais plus de livres sur la table pour l'attaquer. Je lui ai dit, achète-moi une Bible, je vais t'attaquer sur ton propre terrain. Et je commençais à lire Genèse, Matthieu, Proverbe, Romain. Je coloriais en bleu ce qui était acceptable, en jaune ce qui était douteux, et en vert les contradictions, les choses inacceptables, etc. Et puis j'y allais avec mes crayons de couleur, partout, en classe, dans les cafés, partout. Et puis là, on argumentait l'un contre l'autre, et elle m'a dit, demande à Dieu de te montrer la Bible comme lui la voit. Le Saint-Esprit va ouvrir ton cœur pour que tu vois la Bible. Je dis, oh, ça c'est encore un... Vous savez, encore un truc d'abracadabra, là, les machins comme Dieu vivant, cité vivante, ta-da-da-da, l'épée qui va arriver. Bon, mais je l'ai fait. Parce que moi, je vous dis, les expériences spirituelles, je l'ai fait quand même. Parce que, je dois vous dire un truc, vraiment, quand j'ai lu Matthieu, ça, il faut que je l'avoue. Qu'est-ce que je suis devenu copain avec Jésus? Surtout dans Matthieu 23, vous savez, malheur à vous, les curés, les pasteurs. Mais ça, vraiment, quand j'ai vu, j'ai dit, mais purée, s'il était vivant aujourd'hui, celui-là, je suis sûr qu'il serait avec nous à la fête rouge. Il serait à la Ligue communiste révolutionnaire, c'est évident la façon dont il parle. Moi, j'imaginais, vous savez, que que dans ma tête, il y avait tous les curés, etc., puis au-dessus, il y avait le pape, puis après, il y avait toutes les autres religions chrétiennes, et au-dessus, il y avait Jésus. C'était le chef des religieux. Mais quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais il mettait de ses allumés au cœur religieux. Et franchement, il commençait à me plaire, mais de là à croire qu'il était vivant, c'était autre chose. Par contre, là, j'ai commencé à lire. J'arrive sur un passage vert, un truc impossible. Je lisais la nuit, donc vous m'accordez le bénéfice du doute entre le bleu et le vert à 2 heures du matin. Peut-être ça peut vous arriver aussi de vous tromper. Ben, faut pas se moquer de moi. Je gomme et je remets bleu. Je dis non, ça c'est bon. J'arrive sur un truc jaune, douteux. Ah, je commençais à douter de mes doutes. Pourquoi c'était douteux? Et puis, peu à peu, pendant des heures et des heures et des heures, j'étais travaillé jusqu'à ce qu'à un moment donné, réellement, le 27, dans la nuit du 27 au 28 avril 77, une lumière est venue dans le coin droit de ma chambre. Je me suis mis à genoux. Ma première prière, c'était « Seigneur Jésus, je veux te suivre, pas comme la foule, mais comme un des 12. » Je connaissais pas vos prières, les prières. J'ai prié avec ce qu'il y avait au-dedans de moi. J'ai vu ce que Jésus vivait avec les 12, une aventure. Il a pris des gars vraiment, hein. Et il les a pris, puis à cause de lui, il a réussi à en faire quelque chose. Et je dis, Seigneur, une aventure comme ça, un gang pour Jésus, je le veux. Je veux te suivre dans une telle aventure. Pas comme la foule, mais comme un des 12. Et on démarre. Et le lendemain matin, à 11h du matin, je suis allé voir cette jeune fille du berger. Je lui ai dit, je voudrais donner ma vie à Jésus. J'ai confessé Jésus-Christ comme mon Seigneur. Et puis, j'ai même fini quelques mois plus tard par l'épouser, puisque c'est Isabelle, la fille du berger. Je suis rentré dans ma classe et j'ai commencé à les œuvres dignes de la repentance. Je suis allé voir une jeune fille dont je me moquais. Je lui ai dit, tu sais, Chantal, je te demande pardon parce que je me suis moqué. Elle m'a dit, c'est quoi ton nouveau coup? Je lui ai dit, c'est pas un nouveau coup. Je viens de donner ma vie à Jésus. Je suis devenu chrétien. Ils ont été en parler aux profs. Ils ont fait un conseil spécial de classe. Ils ont dit, ce pauvre jeune, on l'a poussé dans les concours de philo au niveau national. Il y a un truc qui a dû péter dans sa tête. Il tourne au religieux. Et il a tout le temps sa Bible avec lui, etc. Puis alors, vraiment, j'y allais, je suis allé voir ma maman, j'ai fait des choses qui ne devraient pas se faire. J'ai évangélisé au bazooka. Je suis arrivé chez maman, je vous ai dit, j'ai lu que Matthieu, d'accord? J'avais lu Matthieu, Romain, donc dans l'évangile, que Matthieu. J'arrive, tu sais maman, papa, c'est plus mon père. Jésus a dit, n'appelez personne votre père sur la terre. T'es tombé dans une secte antifamille? Non, c'est Jésus qui l'a dit. Puis tu sais maman, t'as bien fait de prier pour moi parce que maintenant je suis devenu chrétien, mais un vrai, tu vois. Pas un gars qui a besoin comme toi des petites idoles, des petites statuettes, etc. Je dois attraper la masse de papa et casser tout ça. Ça va plaire à Dieu. Et je commence à attraper la masse et à casser tous ces trucs. Arrête, arrête! Je dis maman, si tu reçois pas ma parole, Jésus a dit si on reçoit pas, vous sortez, vous essuyez la poussière des pieds. Donc maman, je sors de la maison et j'essuie la poussière de mes pieds sur le balcon. Et pendant que je fais ça, malgré mon évangélisation, le Saint-Esprit tombe sur ma petite sœur qui dit, mais Philippe, moi je veux donner ma vie à Jésus. 3 heures après ma conversion, ma petite sœur a donné sa vie à Jésus. Ma maman depuis, malgré ce jour-là. Mon papa après, puis ça a continué dans la famille. Mais j'ai eu la joie de commencer à changer radicalement de vie. J'arrive au bac, je me suis régalé au bac. Parce que maintenant j'avais quand même 3 mois de conversion. Donc j'arrive au bac français, puis le prof de français me dit, monsieur, ben, choisissez votre texte. Vous êtes sûr, madame? Oui. Alors ce sera Jean 3:3. Il dit pardon. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3, madame. Il y a un trésor là-dedans, je vais vous partager. Et alors elle me dit, on va lire Montaigne 5 minutes. Je lui dis, ça vous fait plaisir. On a lu Montaigne 5 minutes, puis après elle me dit, bon, alors allons-y sur Jean 3:3. Et alors là, je suis allé, madame. Jésus dit, si un homme veut voir le royaume de Dieu, il faut qu'il naisse de nouveau. Vous savez, on ne devient pas chrétien par élevage. On peut élever des poulets, des oies, des moutons, des lapins. Mais l'élevage de chrétiens, ça ne marche pas. À un moment donné, il y a besoin de recevoir une vie nouvelle. Une vie qui nous est communiquée. Et vous ne savez pas ce qui s'est passé. Jésus, cette vie dont vous avez besoin, dont j'ai besoin. Il est descendu du ciel. Il l'a donné sur une croix. Il est allé dans le séjour des morts. Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu l'a sorti du séjour des morts. Il l'a animé de cette vie. Et ce même esprit qui l'a sorti du séjour des morts est venu m'allumer de cette même vie. Et ça peut devenir votre cas. Et à ce moment-là, vous naissez de nouveau. Tous les étages en vous s'allument. Vous pétez la vie de tous les côtés, madame. Ça s'appelle naître de nouveau. Et là, vous allez voir le royaume de Dieu. Je lève la tête. Elle me met 16. Elle était en larmes. Et elle me donne son adresse en train de me dire « Revenez me voir ». Et c'était pour moi le début d'une aventure ici. Et une aventure qui a commencé et qui n'a jamais fini, béni soit Dieu. Devant les plus petits comme devant les plus grands, j'ai commencé après à prêcher l'évangile. J'ai réparé parce que, je vous ai dit, je travaillais pas, je faisais... Donc de temps en temps, je faisais des courses avec ma copine qui gagnait pas grand-chose. Hein. Donc on faisait les courses. Et pour faire les courses, au prix où je les faisais, quand vous avez le choix entre un pâté pur porc et un bloc de foie gras, vous prenez le bloc de foie gras. Parce que c'était le même prix pour moi. Il s'agissait juste de faire hop, et c'était fini. Mais je ne savais pas qu'un jour j'allais devenir chrétien. Et revenir dire, bonjour madame, je venais dans votre magasin pour vous voulez un bloc de foie gras deux fois par semaine. Et je viens avec mon carnet de chèques pour vous rembourser parce que quelque chose s'est passé dans ma vie. Jésus est rentré dans mon cœur. J'ai tellement envie aujourd'hui de le suivre que je viens vous demander pardon et réparer ça. Et je vous assure, peut-être les gens ne prennent pas les traités quand vous évangélisez. Donnez-leur un chèque de restitution, généralement. Ça fait plaisir. Et j'ai vu beaucoup de gens à qui ça faisait plaisir parce qu'il y avait plusieurs magasins à faire. La séparation de toutes ces choses-là est un travail de vie dans la lumière. J'ai compris quand on est de nouveau, on accueille la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. J'ai compris une chose, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. J'ai compris une chose, un jour Jésus va revenir et il mettra en lumière tout ce que nous avons fait et pensé, même ce qui est caché dans les ténèbres. Tout sera exposé à la lumière. Nous comparaîtrons tous au tribunal de Christ. Et j'ai choisi mon camp. Je suis enfant de lumière aujourd'hui. J'ai choisi. Je suis loin d'être devenu parfait. Vraiment loin. Mais je sais une chose. J'ai choisi le camp de la lumière. Je veux amener ma vie dans la lumière du Seigneur. Et c'est une bénédiction réellement que j'aimerais vous inviter ce soir à partager. Quelques mots sur notre parcours depuis. Puis je vais prier pour vous. Et ensuite vous montrer juste quelques petits dessins. Notre vision a continué. Ensuite, je suis parti avec mon épouse au collège biblique au Danemark. Puis après, j'avais soif de vivre un an de vie par la foi en apprenant réellement quelque chose de Dieu et avec un homme de Dieu. Puis nous sommes arrivés en Savoie. Et comme j'avais travaillé avant d'aller au collège biblique, j'avais le droit aux ascédiques. On a un pays vraiment béni. Non, c'est vrai, nous ne nous plaignons pas de la France. C'est un des meilleurs pays au monde, je vous assure. On râle, mais allez faire un petit séjour dans d'autres continents. Quand vous revenez ici, vous n'arrêtez pas de rendre grâce. D'abord, vous tournez l'eau chaude. Ah, ça marche, mais c'est extraordinaire tant quand vous passez 3 semaines sans eau chaude. Alors, vraiment un pays magnifique. Mais là, le Père Céleste m'a dit, mais Philippe, tu n'es pas demandeur d'emploi. Je t'appelle à me suivre. Tu es en formation pour moi. Je dis, oui, Seigneur, c'est vrai. Donc, ça va, j'ai compris. Monsieur le directeur des ascédiques, j'ai l'honneur de m'adresser à vous pour vous dire que je vous remercie pour vos services. Néanmoins, mon Père Céleste a décidé que c'est lui-même qui allait pourvoir à tous mes besoins. Ainsi, je vous demande de bien vouloir garder la somme d'argent que vous vouliez m'attribuer chaque mois. Et puis, j'ai fait cette lettre, je l'ai posée, puis ma femme l'a postée. J'ai dit, oh, qu'est-ce que t'as fait? Mais finalement, il fallait le faire. Donc ensuite, on a coupé ça, puis après on a dit... Pareil aux allocations familiales. Et en ce temps-là, on connaissait seulement 2 groupes de chrétiens. Un à Montauban et un groupe de filles chrétiennes à Nîmes. On leur a dit, surtout, nous voulons vivre par la foi, pas par la charité des croyants. Donc, ne nous envoyez jamais d'argent. C'est étonnant, aujourd'hui, les gens disent toujours le contraire. Nous vivons par la foi, donc envoyez-nous de l'argent. Ben nous, on a dit, nous vivons par la foi, donc s'il vous plaît, nous ne voulons pas vivre par votre charité. À moins que vous ayez une révélation très spéciale, on veut vivre en dépendant du Père. Et on va voir si notre vie, c'est une gloire ou un fiasco. J'ai appris depuis que le mot « gloirsco » existe. Je l'ai inventé peut-être. Mais c'est un peu l'impression qu'on avait vivre dans le gloirsco. C'est-à-dire des moments vraiment, c'était terrible, mais d'autres fois, quelle merveille, en pleine montagne, à des milliers de mètres d'altitude, avec personne qui nous connaît autour, et être là avec 2 petits-enfants le matin, dire « Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Tu vois, là, on n'a plus rien. Du sel, de l'huile, et des radis du jardin. Pas trop gros, parce qu'il faut les manger, et si on les laisse grossir, on va devoir jeûner trop longtemps. Et on sort de la maison, et un magnifique pain, juste devant la porte. Peut-être vous ne le croyez pas. Ben, si vous ne croyez pas, vous viendrez voir François, après tout, c'est lui qui arrange tout ici. Mais moi, depuis, je crois qu'il y a des anges boulangers. Parce que c'est tellement magnifique de voir ça, d'expérimenter ces choses-là. Puis, en revenant dans notre région, à Montauban, en 1980, effectivement, on a commencé... faire chaque année un camp d'évangélisation pour implanter une église nouvelle. On changeait de département chaque année. Et puis en 1996, donc nous avons quitté Montauban pour, après 16 ans de ministère là-bas, pour commencer une église nouvelle à Montpellier. J'ai aussi eu la joie de travailler dans les pays francophones, dans pas mal de pays au monde aujourd'hui. Et c'est quelque chose de magnifique. Il y a des choses que j'ai apprises dans ma vie. J'ai appris à me brancher sur la vie. Et je suis tellement heureux de me brancher sur mon Jésus chaque jour de ma vie. Il y a 27 ans que je suis chrétien. Il y a 27 ans, je ne sais pas ce que c'est que de passer une journée sans prendre un moment à part pour me connecter avec Jésus. J'ai appris que la parole de Dieu est devenue une manne. Que quand on l'interroge, elle nous répond. Et ça fait 27 ans que jusqu'à ce jour, je n'ai pas passé 24 heures sans prendre un moment pour aller lire la parole de Dieu. Et simplement chercher, l'interroger, voir Dieu me parler. J'ai appris à aimer mon épouse et à aimer mes frères dans la foi. Avec l'aventure de se laisser connaître et de chercher à connaître, j'ai appris que mon bonheur dépend de la communication de l'Évangile. Et j'ai communiqué l'Évangile aux plus petits autour de moi, les gens dans le gouffre, comme des présidents, des ministres dans pas mal de pays, puisque j'ai visité près de 50 pays au monde. Et ça, c'est pas un diplôme, c'est juste le bonheur de dire partout où j'arrive. Vous savez ce que je dis, la première chose que je fais quand je pose mes pieds sur un pays, parce que je vous en parlerai dans deux jours, mais moi j'écris toujours sous mes chaussures. J'écris Luc 10, 19, par exemple, et Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et comme la Bible dit que Satan est sous mes pieds, quand je pose mes pieds, il dit, Satan, tu lis la Bible maintenant, moi j'ai lu aujourd'hui. Maintenant, c'est ton passage pour toi. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et quand j'arrive, je dis, Congo, attention, Jésus débarque. Certains vont dire, ah mais il est orgueilleux ce gars. Non, mais écoute. Tu sais, un jour Jésus est entré à Jérusalem. Il y avait un petit âne qui le portait. Et tout le monde applaudissait. Il n'y a que les imbéciles qui ont cru qu'on applaudissait le petit âne. D'accord ? Donc je sais très bien que quand je dis ça, Jésus débarque. Je ne parle pas du petit âne qui le porte. Je parle de celui qui est en moi. Christ en moi, espérance de la gloire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne crains pas mes ennemis. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et je sais que le même esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts est à l'œuvre en moi pour me ramener à la vie. Je voudrais vous inviter à prier maintenant. Je vous demande de me faire un petit cadeau. Quand je dis prier, je vous demande de faire une chose. Ne baissez pas la tête. Parce que je sais que certains ont le Dieu des fourmis pour Seigneur. Moi, mon Seigneur, il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et il suffit que je dise prier, j'entends toujours un petit bruit de nuque qui se courbe. Non, non. Quand ce sont les autres prédicateurs, ils font ce qu'ils veulent et ils vous laissent prier le Dieu des fourmis. Mais moi, je ne supporte pas. C'est un truc que je ne supporte pas. Parce que le Seigneur a dit, je vous ai délivré de la servitude pour que vous marchiez la tête haute. Il nous a donné une dignité et une gloire. Et aujourd'hui, je vous dis, si c'était à refaire ce soir même, je dirais oui à Jésus. Je veux te suivre, pas comme la foule, mais comme un des 12. Et c'est pourquoi je voudrais inviter maintenant ceux et celles qui auraient besoin de faire ce pas ce soir. Oh Dieu, combien sont là pour la première fois? Combien répondent à un tel appel pour la première fois? Est-ce qu'il y en a qui pour la première fois ce soir veulent dire, Jésus, je veux réellement recevoir la vie véritable au-dedans de moi? Oh merci Seigneur, gardez la main levée, je veux prier pour vous d'abord. Mais ça, c'est magnifique, vous savez. Vous êtes en train de déclencher une fête dans le ciel. Les anges disent, on met la table. Parce que la Bible dit, chaque fois que quelqu'un se repent, il y a une fête dans le ciel. Chaque jour qui passe, 213 000 personnes répondent pour la première fois à Jésus-Christ dans ce monde. Chaque jour qui passe, 213 000 fois, les anges disent, mettons la table. Je vous dis, le ciel, ça va être la fête. Oh, si vraiment t'aimes l'austérité, vaut mieux que t'ailles ailleurs, Parce que les fêtards, vous allez vous régaler là-haut. C'est la fête permanente, c'est le banquet permanent. Et moi, vraiment, je suis reconnaissant, parce que vous qui répondez pour la première fois, vous êtes en train de déclencher une fête dans le cœur de mon Père Céleste, et en train de déclarer, de faire déclarer aux anges, Seigneur Jésus, et je le dis avec eux, Seigneur Jésus, voilà les récompenses de tes souffrances. Voilà les récompenses de ton sacrifice. C'est pour ça que tu l'as fait, c'est pour eux. Seigneur, mon cœur est bondi de joie. Merci pour ce bonheur de voir des personnes se tourner vers toi ce soir. Oh, merci Jésus. Je vais demander à ceux qui se sont avancés pour la première fois, si vous voulez bien, vous allez répéter cette prière après moi. Et tous ceux qui veulent la dire, vous pouvez la dire aussi si vous le désirez. Seigneur, je viens à toi, tel que je suis. Merci pour ton sens de l'humour. Merci pour ton grand amour. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Tu m'as aimé à la croix, Jésus. Tu as accompli le salut pour moi. Et aujourd'hui, je reçois ce salut. Je dis oui, Seigneur. Que la vie nouvelle pénètre au-dedans de moi. Je te donne toute ma vie, tous mes péchés. Tu as effacé mon péché. Et le même esprit qui a levé Jésus d'entre les morts met la vie nouvelle au-dedans de moi. Je t'accueille et je te suivrai pour l'éternité. Amen. Vous qui avez fait cela pour la première fois, je vous demandais juste d'ouvrir vos mains et vos bras et de recevoir l'amour de Dieu le Père à venir sur vous. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Visite, Saint-Esprit. Je veux inviter maintenant tous ceux qui se sont avancés ici, et ce n'est pas la première fois. C'est pour une décision de marcher dans la lumière de Dieu totalement. Je veux vous inviter à prier vous-même. Si vous avez déjà reçu Jésus, Jésus est déjà au-dedans de vous. Et s'il y a quelque chose de terne, c'est parce qu'à certains moments, vous avez choisi l'ombre ou la tiédeur ou le gris au lieu de la lumière. Et c'est pourquoi je veux vous inviter à vous repentir, à dire « Seigneur, je te demande pardon d'avoir choisi l'ombre au lieu de ta lumière. Et je viens à toi, purifie-moi. » Merci, ô Dieu, Saint-Esprit, remplis. Visite, lumière au milieu de ton peuple, au nom de Jésus. Oh, la gloire de ta présence, Seigneur, c'est ce que nous voulons. La gloire de ta présence, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Je voudrais simplement vous parler rapidement. Maintenant, je veux parler davantage à ceux qui ne sont pas des nouveaux croyants. Je veux nous parler à nous qui sommes des leaders dans le monde charismatique, des chrétiens, et puis finalement même pour les autres non-chrétiens. Alors, simplement, je voudrais partager une exhortation avec vous qui concerne l'idée de là où nous en sommes, de passons à l'autre bord. Je voudrais simplement vous partager un récit biblique avant qu'on arrive à peut-être à régler ça. Et puis, Marc 4, versets 35 à 41. Jésus leur dit « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui et il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sous le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi ?» Alléluia. « Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Et ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Juste une introduction à ce que je vais partager avec vous ces prochains jours ici. Passons à l'autre bord. Moi, je crois ceci, que réellement, aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ a connu des moments bénis dans, alors on appelle ça le renouveau charismatique. Est-ce que je fâche quelqu'un? Attention, préparez vos petits sacs de pardon, je vais fâcher quelqu'un. Parce que moi, parfois, j'appelle ça le renouveau charismatique. Et donc, on a vécu des temps bénis dans le renouveau charismatique il y a 30 ans. C'était super, c'était bien. Et il y a quelques années, on a même eu un autre moment de renouveau, et bénédiction du Père, on appelait ça comme on voulait, vin nouveau, etc. Et puis, à ce moment-là, on sentait que Dieu nous conduisait quelque part, comme si le Saint-Esprit nous parlait, pour dire, je vais amener mon Église à l'autre bord, je vais vous conduire plus loin, toutes ces prophéties, je vais vous amener dans une dimension que vous n'avez pas connue, je vais vous faire connaître la gloire, le réveil, etc. Amen, 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 on bouffe des prophéties. Et puis au moment où ça commence à arriver, Jésus nous amène à l'autre bord. Qu'est-ce qui suit la promesse de Jésus d'amener ses disciples à l'autre bord? Ils se retrouvent en pleine tempête. En pleine tempête. Vous êtes toujours dans l'actualité? Ce qui suit la promesse de l'autre bord, c'est la crise. Vous avez eu la promesse de l'autre bord? Oui? Est-ce qu'au moins vous avez eu la crise et la tempête après? Alléluia! C'est bon, vous êtes sur le chemin. Vous savez que c'est ça la façon de Jésus d'opérer. De nous conduire ensuite dans ce moment de crise. Mais qu'est-ce qui se passe ici, quand nous sommes à l'autre bord? Alors dans mon petit dessin, j'ai certains qui ont mal compris, ils croient qu'il fallait passer par-dessus bord, au lieu de passer à l'autre bord. Donc il y a un petit dessin où il y en a un qui tombe du bateau, il y en a qui font cavalier seul pour échapper, il y en a deux qui décident de faire une petite croisière en couple en disant ben, on attendra que ça vienne tout seul. Tout ça, on les a vus, toutes ces petites figurines ici, quand on est passé à l'autre bord. Mais chacun se demande, mais il y a une petite grenouille qui est là, puis elle se dit, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire, passons à l'autre bord? Alors ici, j'aimerais vous lire quelque chose. Dans Business Week Magazine, on raconte comment des grandes firmes, dont IBM, sont passées de la fortune à la survie en quelques années. Et on dit, le problème a été une incapacité à réagir et à répondre au changement. Une incapacité à réagir et à répondre au changement. Le succès d'hier n'est pas une garantie d'une vie pour demain. Le psaume 33:11 nous dit « Les projets du Seigneur sont stables, ils durent toujours, mais ils se manifestent de génération en génération. » Il y a un temps du renouveau pour le renouveau. Sinon, ça devient un renouvieux. Réellement, il y a quelque chose qui doit bouger pour nous. La réforme que nous avons connue pour certains au XVIe siècle, heureusement, Luther a dit « L'Église est réformée ». Heureusement, Calvin a dit « L'Église est à réformer ». À chaque fois que par l'Esprit et l'Écriture, nous en verrons la nécessité. Ça continue, il y a une dynamique. Au commencement, la parole était « vers Dieu ». « Prostanteon » en grec. « Vers Dieu », il y a une notion de dynamique, de mouvement. Quand tu cesses de bouger, tu deviens un musée. Quand tu cesses de bouger, tu deviens une pièce de musée. Et c'est pourquoi je crois que réellement aujourd'hui, dans Charismatic Park, quelques-uns ont survécu. Et si vous voyez mon petit dessin ici, il y a deux dinosaures qui se parlent et qui se disent « Est-ce que vous parlez en langue, vous aussi ?» Ah, le succès d'hier n'est pas la garantie d'une vie pour demain. Non. Charismatic Park, c'est du passé aujourd'hui. Il faut qu'on sorte d'essayer de jouer les conservateurs de bénédictions passées. Dieu est toujours nouveau. L'eau fraîche est toujours fraîche. L'eau fraîche d'aujourd'hui n'est pas une vieille rivière. C'est de l'eau nouvelle. Le projet de Dieu est stable. Mais le renouveau, il est en 2004. Il n'est pas en 73, ou en 74, ou en 82, ou en 94. C'est aujourd'hui que Dieu parle. Il s'appelle le « Je suis notre Dieu ». Le succès d'hier n'est pas une garantie d'une vie pour demain. Et si nous voulons passer à l'autre bord, il faut apprendre à penser autrement. Donc là, j'ai un petit bonhomme qui pense la tête en bas. C'est-à-dire, ça s'appelle en grec une métanoïa. En français, on dit une repentance. C'est-à-dire, il faut que tu apprennes à voir les choses autrement. Dieu commence à nous mettre la tête en bas. Oh, ça bouscule dans ma vie. Alléluia, secoue Seigneur, surtout que tu le plonges à l'endroit, à l'envers, que réellement commence à voir les choses sous un autre angle. Et réellement, il s'est passé des choses dans nos vies. Ne croyez pas, j'ai l'air beau sur l'estrade, mais ma vie a été terriblement pétrie, bousculée. Je vous en parlerai dans ces prochains jours, tous ces derniers temps, comment être percé par Jésus, comment être transformé, comment voir les choses différemment. Il nous est arrivé toutes sortes de choses qui nous ont déstabilisés peut-être, mais ça c'est le propre de la métanoïa. Être là, au milieu de la tempête, mais n'empêche, moi je continue de croire aujourd'hui que Jésus revient chercher une église glorieuse. Dans la version Philippe Jauré, c'est une église canon, pas une église boudin. Ça c'est en version Philippe Jauré. Mais Éphésiens dit une église glorieuse. Jésus revient chercher une église canon. Ça veut dire il va la rendre belle. Et pour qu'elle soit rendue belle dans l'état où nous sommes aujourd'hui, où nous sommes, et là je suis désolé, mais je peux nous mettre tous dans le même panier. S'il y a bien un endroit où on est dans l'unité, c'est notre misère devant Dieu. C'est la pauvreté de nos esprits et nos besoins de Dieu lui-même. Là, vraiment, on est dans l'unité. Là, on peut dire, on vaut pas mieux les uns que les autres, quel que soit ton hic ou ton isme. Ton cœur a besoin d'une intervention de Dieu et il nous a bouleversés et mis en crise parce qu'il nous a amenés dans la tempête. Alors, je reviens sur cette histoire de la tempête. Jésus les amène dans la tempête et la paix, avoir la paix dans la tempête, c'est pas une absence de tempête. La paix n'est pas une absence de tempête. La paix, c'est un fruit du caractère qui repose sur la confiance en Dieu. Je voudrais poser une question. Est-ce que Jésus a fait exprès d'amener ses disciples dans la tempête?
Vous pouvez lever votre tête
et la baisser et dire, oui, il a fait exprès. Oui, il a fait exprès. Il est comme ça. Certains vont dire, mais il n'est pas bon, ton Jésus, toi? Il est très bon, mon Jésus. Il est tellement bon qu'il préfère viser la formation d'un caractère de gloire en toi et moi plutôt qu'un bonheur, un petit moment de bonheur immédiat. À ses yeux, c'est tellement plus important un caractère forgé dans l'or de Dieu qu'un tout petit moment de bonheur tranquille, immédiat. Dieu cible toujours autre chose que notre bonheur tranquille. Maintenant, j'aimerais nous dire les uns aux autres, il se pourrait très bien que les tempêtes que nous avons traversées ces dernières années soient simplement un moment d'identification à la tempête que goûtent les gens qui sont à l'autre bord. Vous savez, tous ces Français, tous ces gens ou étrangers, tous les gens autour de nous, dans ton quartier, dans ton usine, partout, leur vie est une tempête. Et si nous ne traversons pas des moments de tempête, nous ne connaissons pas, qui peut mieux que Liliane parler à une maman qui traverse la tempête de la naissance d'un enfant handicapé? Qui peut mieux parler à un homme qui traverse une faillite de son entreprise que toi qui as eu une tempête il y a 3 ans, 2 ans, 5 ans, mon entreprise a fait faillite? Jésus a fait exprès. Non pas qu'il voulait t'amener dans la tempête, mais ça fait partie de tes galons. Ça fait partie de ton succès. Cette fois, le juste tombe, mais il se relève. La façon dont tu vas répondre à la tempête, ça va faire de toi un plus que vainqueur. Un plus que vainqueur n'est pas quelqu'un qui n'a jamais échoué, quelqu'un qui a triomphé de ses échecs. Et je voudrais vraiment que nous soyons encouragés à devenir des plus que vainqueurs. Ne nous laissons pas intimider par la tempête. Ne nous laissons pas intimider. Écoutez ceci. Jésus a fait taire la tempête. Est-ce que Jésus était bizarre au point de croire que la tempête parle? Oui, la tempête parle. La tempête était en train de parler dans le cœur des disciples. Et je voulais vous dire, vous qui avez traversé des tempêtes, responsables de groupes de prière ici, qui avez traversé des tempêtes, vous dans les couples, vous les parents avec les enfants, vous dans les groupes, les divisions, etc., vous avez traversé des tempêtes dans votre entreprise. La tempête n'est pas si grave. Ce qui est grave, c'est la voix qui te parle dans la tempête. Il y a une tempête, Jésus dort. La tempête n'est pas si grave. Jésus roupille. Toujours au moment où on n'a plus besoin de lui, qu'on a l'impression qu'il roupille. Seigneur, tu pourrais faire ta sieste juste à un autre moment, tu vois. Quand mon voisin a éprouvé, mais pas moi quand même. C'était pas l'heure là pour moi. Mais il roupille. Mais parce que pour lui, la tempête, c'est pas grave. Par contre, ce qui est très grave, tu sais, cette voix qui te parle dans la tempête, comme la voix qui parlait au cœur des disciples, pour leur dire, ce coup-ci, vous êtes fichus. Vous voyez, c'était un imposteur. Il vous a amené au milieu du lac, dans le moment dangereux, il dort, il vous secourt plus, c'est cuit pour vous, c'est fini. Paul dit, il avait une écharde. L'écharde, c'était pénible, mais le pire, il y avait le messager de l'écharde qui venait lui parler. Et tu peux avoir une épreuve, mais le messager qui parle dans l'épreuve, la voix de la tempête est pire que la tempête. Et certains ici, vous avez avalé cette voix de la tempête. Et vous avez senti diminuer au-dedans de vous la ferveur de votre foi, la ferveur de votre esprit, et aujourd'hui il y a quelque chose de blessé et d'éteint au-dedans de vous. Ce soir, je veux vous inviter à la repentance. Ça veut dire, vous allez faire comme Jésus, parler à la tempête et dire, « Tempête, tais-toi dans ma vie, silence !» Bon, tu peux toujours dire, « Tempête, tais-toi. » C'est un chien qui va essayer de te mordiller les... te mordre au pantalon et tu dis, oh, s'il te plaît, petit chien, quand même. Bon. Tu me dis le résultat. Combien de centimètres tu es fait avaler, hein? C'est la même chose quand le messager de la tempête, l'accusateur, le méchant, celui qui veut te détruire, celui qui veut t'amener à perdre la foi, celui qui veut t'amener à perdre la confiance en ton Dieu, quand il a parlé dans ton cœur, il t'a menti, il t'a asservi. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mais les mensonges du diable nous asservissent et ils doivent être dénoncés. Et nous devons parler à ces mensonges et les faire taire et à ressortir de cette prison que nous a donnée la tempête. Dans ces moments de tempête, c'est vrai, Jésus a voulu marquer ses disciples, mais pas qu'ils soient vaincus. Ils ont découvert une nouvelle facette de Jésus. Jésus s'est levé, il a dit à la tempête, tais-toi. Et on dit, waouh, qui est celui-ci qui parle même à la tempête et la fait taire? Une nouvelle découverte de Jésus. Le but de la crise, c'est de te laisser marquer par Jésus, mais de le découvrir autrement. Bonne nouvelle pour certains, si jamais tu n'apprends rien dans la crise, tu as gagné un billet gratuit. Tu vas recommencer la traversée. C'est vraiment généreux, n'est-ce pas? Et il y en a qui trouvent ça rigolo. Et une tempête et deux mamans, les petits bateaux. Des années sur la tempête. Et C'est pour ça que je suis là pour dire, écoute, arrête, apprends quelque chose. Parle à la voix de cette tempête qui t'a menti. Fais la taire une fois pour toutes. Et décide aujourd'hui de croire que ton Jésus est grand, bien plus grand, qu'il ne t'abandonnera jamais. Et tu acceptes cela. Et ensuite arrive le moment des jours de grâce, le retour des jours nouveaux. Retour des jours de grâce, le vent cessa, il y a eu un grand calme. Et on attend ce moment de calme et où on va arriver à l'autre bord. On attend de voir ça parce que ça fait des années que ça tangue dans les églises, les communautés. Et là, quelle que soit la boutique, ça marche pareil, hein? Ça dépend pas des dénominations. On est tous au milieu de cette crise, cette tempête. On est tous en train d'être secoués de tous les côtés. Mais on crie à Jésus. Écoutez ceci. Ils ont crié à Jésus comme jamais. Et les cris qu'ils poussaient dans le bateau l'ont réveillé. Et cela me fait penser à Israël. Quand ils priaient, alors qu'ils étaient depuis 4 siècles dans la servitude, les cris que leur arrachait la servitude sont montés jusqu'à Dieu. Les cris de la servitude. Je vais vous dire une chose, j'en ai marre des réunions de prière molles. J'en ai marre d'entendre des prophéties qui disent toujours, ça fait 27 ans que je suis chrétien, je connais le milieu. J'en ai marre de la vision de la France avec un nuage noir, et puis j'ai vu une lumière arriver, et le nuage disparaît. Arrête tes bêtises, je suis en Côte d'Ivoire. Ça me fait plus rien, ça m'énerve. Je préfère une parole de Dieu que 15 prophéties que j'entends depuis 27 ans. J'y crois plus. C'est pas que je crois pas à Dieu, je crois mon Dieu, je crois sa parole, je crois que Dieu va se lever. Mais ce qui réveille le cœur de Dieu et le pourquoi il tarde à répondre, il attend des prières qui crient. Je ne crois pas à la petite prière de la bouche, je crois aux entrailles qui éclatent sur les murs, je crois aux estomacs qui explosent, je crois aux tripes qui se vident, je crois à la prière qui fait que quand t'as terminé, t'as les abdos qui sont tendus, ça j'y crois. Mais là, oh Seigneur, tu vois notre misère, ben reste-y. Si c'est seulement ça, l'intensité de ton désir, reste-y. Je ne vais pas perdre mon temps. J'en ai fait des réunions. C'est 27 ans que je suis chrétien. Mais là où tu pries, là où les entrailles sortent, là où ça gicle partout sur les murs, tu peux compter, je reste jusqu'à 6 heures du matin. Mais quand j'entends, ils ont été baptisés dans du jus d'escargot, ou qu'est-ce qui leur est arrivé? Où est la ferveur? Est-ce qu'ils ne ressentent pas le désespoir réel dans lequel nous sommes? Les disciples se sentaient désespérés, ils ont crié à Dieu. Israël se sentait désespéré, ils ont crié à Dieu. Et je vous assure, je suis prêt à rester dans les réunions où les entrailles crient afin que Dieu entende, qu'il exauce. Parce qu'en ce temps-là, il a dit d'Israël, Dieu a entendu, Dieu s'est souvenu, Dieu a regardé et Dieu s'est rendu compte de leur état. Aujourd'hui, Dieu n'entend pas, Dieu ne regarde pas, Dieu ne se rend pas compte dans quel état nous sommes. Dieu ne se rend pas compte parce qu'il n'y a pas
des cœurs en France suffisants pour crier à lui et réellement dire, Seigneur, nous sommes un des pays au monde où les moins de 15 ans se suicident le plus. Oh Dieu, Esprit de Dieu, reviens dans ce pays. Catholique, protestant, c'est fini. On va pas faire ce petit jeu de simplement croire qu'on est juste dans l'unité et qu'à cause de ça, Dieu va nous exaucer. L'unité, c'est celle de nos entrailles. Au moment où tu cries ta misère et ton besoin à Dieu, tu ne demandes pas l'étiquette du voisin. Parce qu'il y a autre chose qui te préoccupe. Il y a autre chose qui jaillit au-devant de toi. Et j'attends ce jour où Dieu va regarder, où Dieu va se rendre compte, où Dieu va entendre. Et je dis, Seigneur, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi de Blandine, souviens-toi d'Irénée, souviens-toi de l'évêque Potin, souviens-toi de ceux qui sont morts pour leur foi tout au long de l'histoire de ce pays. Le sang parle, mais entends la voix de nos cœurs, de nos cris. Oh Dieu, réellement, on veut crier à Dieu et les cris de nos gémissements vont parvenir jusqu'à Dieu. Si on peut avoir ce genre de prière-là, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et nous allons arriver ensuite à l'autre bord. Et à l'autre bord, on va dire, enfin, on y est. Et qui est le comité d'accueil? Le gadarénien rempli de démons. Je vais te dire, quand on va arriver à l'autre bord, tu sais, l'endroit du réveil, c'est pas juste là, enfin, il y a le réveil, on fait plus rien. Non, non. Le réveil, c'est une amplification de tout ce que tu faisais déjà sans vivre le moment du réveil. Il y a des gens tourmentés à l'autre bord. Mais nous avons tant besoin d'apprendre ou de désapprendre la vie d'église. Et de réapprendre à suivre Jésus, pas comme la foule, mais comme un des 12, et à apprendre à rendre nos cultes, nos célébrations adaptées aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui cessent de se demander, mais ces gens se prennent pour des moutons, mais c'est quoi ce qui leur arrive? Faut qu'on change notre langage, notre approche, apprenons à penser comme les gens de l'autre bord. C'est vers là que nous allons. Je vais inviter maintenant tous ceux qui ont été dans cette tempête. Et vous savez que la voix de la tempête a commencé à parler en vous et à détruire votre foi, à diminuer, à polluer votre cœur. Et si vous avez été victime, non pas de la tempête, Jésus l'a voulu pour nous équiper, mais de la voix de la tempête. La voix qui, pendant la tempête, t'a fait renoncer à croire que Dieu est bon. La voix qui t'a fait renoncer à suivre le Seigneur à 100%. La voix qui fait que tu as commencé à émettre des doutes et à reculer dans ta consécration. Alors si tu as entendu cette voix, je vais t'inviter toi-même à décider de parler à cette tempête. Décider de parler à cette tempête. Tu vas identifier ce qui s'est passé. Le messager de l'écharde, le menteur t'a parlé, il t'a asservi. Et tu vas lui parler. Et je veux inviter aussi ce soir tous ceux et celles qui veulent dire, Seigneur, je veux plus d'une religion, je veux passer à l'autre bord. Je ne vous demande pas d'avoir tous le style, la voix de Philippe Jauret. Je suis qui je suis. Je m'en excuse pas, Dieu m'a fait comme ça et je vous demande ni de m'imiter, ni de me rejeter. Je vous demande juste de recevoir, dans ce que je dis, la parole de Dieu au milieu de ma parole. Il y a une parole de Dieu qui t'interpelle pour te dire c'est vrai, je veux conduire mon église à l'autre bord pour être témoin de tous ceux qui ne me connaissent pas. Et si tu sais, tu veux quitter ce qui pour toi était, alors je l'ai dit avec humour, charismatique, parc, ce qui pour toi était des habitudes, un réveil passé que tu as voulu chouchouter et défendre, Dieu t'appelle à l'autre bord. À l'autre bord, là où on pousse des cris pour le salut des multitudes. Si tu sais que ta vie de foi doit changer, non seulement de forme, mais ton cœur, je veux t'inviter à dire ensemble, Saint-Esprit, souffle sur moi pendant ce chant et je terminerai après ce chant. Vous tous, vous allez parler vous-même à la tempête. Vous-même, vous élevez votre voix et vous dites, tempête, tais-toi dans ma vie. Tempête, tais-toi, mensonge du diable, tais-toi au nom de Jésus.